I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Binge audio. Préparé avec amour et fait avec amour.
Les couilles sur la table, épisode 75. Quand on s'indigne contre la violence et l'agressivité dont font preuve beaucoup d'hommes entre eux et contre les femmes et les enfants dans nos sociétés, on s'entend souvent répondre que « eh ben oui, c'est bien triste, mais bon, on n'y peut pas grand-chose parce que, au fond, cette violence, elle existe dans la nature. C'est la loi de la jungle, on est des mammifères, regardez chez les lions, les éléphants, les singes, les mâles dominent les femelles, chez les humains c'est pareil, après tout, vu qu'on est des animaux, eh ben voilà, c'est pas juste, mais c'est comme ça. » Ces croyances simplistes servent toujours à renvoyer les hommes et les femmes à des rôles traditionnels, à légitimer des inégalités et au fond à nous expliquer que tous les combats que nous menons contre toutes sortes de discriminations, contre la misogynie et LGBTQ-phobie, sont voués à l'échec parce que complètement contre nature. La question charrie en général toute une flopée de clichés sur les mâles alpha, the struggle for life, la rivalité des mâles, l'agressivité, etc. Pauvres folles que nous serions à essayer de nous battre contre la domination masculine, autant essayer de brûler de l'eau, de rendre un lion végétarien ou de nous transformer en arbre. Face à tant de mauvaise foi, on sait bien, quand on est féministe, que le plus sage, c'est souvent de fuir ces débats basés sur des comparaisons humains-animaux. Pourtant, ce sont des débats passionnants quand ces questions sont posées par des scientifiques qui connaissent leur sujet. Parce que oui, observer et comprendre les animaux, notamment nos plus proches cousins, comme les grands singes que sont les bonobos et les chimpanzés, peut nous permettre de mieux comprendre nos sociétés humaines, nos émotions, nos fonctionnements en tant qu'individus et que groupe, et donc aussi les questions que nous posons sur le genre. Pour tout vous dire, même si le livre de mon invité m'a passionnée, j'ai hésité à faire cet entretien à cause du contexte que nous connaissons actuellement en France, un contexte d'attaque transphobe, porté y compris par des personnes qui se disent féministes et qui s'accrochent à des arguments pseudo-biologiques selon lesquels sexe et genre iraient forcément de pair chez tous les animaux, donc chez les humains aussi, et donc qui persistent à définir les femmes comme des femelles et les hommes comme des mâles. Bon. Mais justement, écouter ce qu'a à nous dire le primatologue Franz De Waal peut nous permettre de sortir de cette instrumentalisation des sciences à des fins sexistes ou transphobes. Franz De Waal, bonjour.
Bonjour.
Il est pas de café en même temps.
Oui.
Bonjour et merci beaucoup. Vous vous appelez Franz, vous expliquez dans votre livre que ça vient de Saint-François d'Assise, ça tombe bien, c'est le patron des animaux,
oui.
Que comme lui, vous adorez depuis que vous êtes tout petit. Vous avez consacré votre vie en tant que primatologue à l'étude des singes, de leur comportement et même de leur culture.
Oui.
Vous avez publié de nombreux livres de vulgarisation tirés de vos analyses et de très nombreuses études scientifiques, par exemple des livres sur les émotions, sur l'empathie, sur les processus de réconciliation entre les grands singes, qui tous démontrent que vraiment, faire comme s'il y avait une frontière étanche entre les animaux et les humains, c'est vraiment absurde. Et là, vous venez de publier un essai qui s'appelle « Différent » et vous vous attaquez tout simplement au genre. C'est un essai que je trouve absolument passionnant, dont on va discuter dans cet épisode. Et d'abord, j'aimerais bien, pour que ce soit clair, que vous nous expliquiez pourquoi c'est tellement important pour vous de faire des liens entre ces recherches sur les grands singes et les recherches sur les sociétés humaines. Pourquoi c'est important de se rappeler et de prendre en compte le fait que si on remonte nos arbres généalogiques jusque il y a 6 millions d'années, eh ben, on va tomber sur un mélange de bonobos et de chimpanzés, en tout cas, qu'on vient de là, quoi. Pourquoi c'est tellement important de rappeler ça?
Oui, parce que j'ai remarqué pendant que je donne des conférences sur l'intelligence animale ou les émotions animales, que les gens sont très intéressés dans les différences entre les sexes. Si je dis les femelles font plus ça, les mâles font plus ça, ils sont très intéressés. Je pense parce que ils lisent dans l'Internet et sur les blogs, ils lisent que les différences entre les genres sont culturelles, sont surtout culturelles, et ils sont sceptiques, comment dire, sceptiques.
Oui, sceptiques.
Sceptiques de ça. Ils croient peut-être pas ce que j'ai dit, mais ils veulent entendre d'un biologiste qu'est-ce qu'ils pensent de cette idée que toutes les différences entre les genres est culturelle. Et il y a un autre groupe, comme tu expliques là, qui dit que les différences biologiques sont innées et on peut pas les changer. Et ils ont souvent des idées très simplistes là-dessus et qu'il faut suivre dans la société les idées que eux ils ont sur la biologie, qui est souvent une projection idéologique. Alors, il y a ces deux côtés-là qui fait que les gens sont très intéressés. Qu'est-ce qu'un biologiste va dire là-dessus? Et moi, c'est un peu dommage. Mon livre n'est pas simple parce que les deux espèces, bonobo et chimpanzé, sont très différentes l'une de l'autre. Alors, c'est pas une histoire simple de comparer avec eux. Et en plus, moi, je crois aussi que chez l'homme, bien sûr, il y a la biologie dans ces différences-là, mais chez les primates, il y a aussi la culture pour les différences entre mâles et femelles. Ils sont aussi des animaux culturels comme nous, on est. Alors, c'est pas une histoire simple, mais je crois qu'il faut mettre la biologie dans la discussion des genres. Oui.
Bien sûr, c'est-à-dire, mais c'est ce que montrent aussi énormément de travaux féministes sur la question, le fait que, en fait, simplifier, en faire comme s'il y avait la nature d'un côté et la culture de l'autre, ça n'a aucun sens,
ouais.
Parce que tout est enchevêtré, en fait, tout le temps.
Ouais, ouais.
Ce qui veut pas dire qu'on n'a pas de corps, mm-hmm. mais ce qui veut pas dire qu'on est uniquement nos corps, en fait.
Ouais,
même la façon dont on vit nos corps et dont on les ressent, etc., c'est aussi culturel, en fait.
Ouais.
Donc,
ouais.
Vous expliquez pour ça que c'est comme essayer de savoir...
Mm-hmm.
Si on se demande si un comportement est naturel ou culturel, si c'est inné ou si c'est acquis, vous dites c'est comme quand on entend un tambour, c'est comme se demander si le bruit il vient du batteur ou du tambour.
Ouais.
Ça n'a pas de sens en fait.
Oui, on peut pas dire des choses qui sont purement culturelles, ça n'existe pas parce que la culture, qu'est-ce que c'est la culture? C'est nous. C'est pas un truc dehors de nous, c'est nous la culture et on transmet ça l'un vers l'autre. C'est l'influence que nous on a sur d'autres. Ça c'est la culture et la culture a toujours une interaction avec nous qui sont des animaux. Alors il y a rien de purement culturel. Il y a aussi rien de purement biologique. Ça n'existe pas parce que on est né. Peut-être on peut dire à la naissance on est un être purement biologique. Mais on est influencé par l'environnement et par ceux qui sont autour de nous. Et aussi, si le grand singe, un chimpanzé ou un bonobo est adulte quand ils ont 16 ans, ils ont un développement extrêmement lent, ils apprennent beaucoup de choses, alors eux aussi, ils sont influencés par ce qu'ils voient autour d'eux. Alors il n'y a rien de purement biologique ou purement culturel, ça n'existe pas.
Ok, on va développer après l'idée, mais j'aimerais, si je comprends bien, ce que vous dites quand même, c'est qu'il serait absurde de dire que nous sommes radicalement différents, par exemple, des singes parce que nous sommes des humains. Ça, vous appelez ça faire de l'anthropodénie, parce que souvent on dit il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, il ne faut pas projeter des caractères humains sur les animaux, il ne faut pas regarder les animaux pour comprendre comment nous on fonctionne. Et vous dites, ça c'est faire de l'anthropodénie en fait,
c'est faire comme si
on n'était pas des animaux. Vous dites, on est des animaux.
Oui, il y a certaines différences. On a le langage qui est très spécial pour nous. On est plus intellectuel que d'autres singes. Pas beaucoup plus, mais plus. Et on est plus technologique. On a de familles nucléaires, ça c'est important. Les chimpanzés et bonobos, ils n'ont pas de famille nucléaire mâle, femelle, enfant. C'est surtout les femelles qui font tout le travail avec les enfants. Alors il y a certaines différences parce que nous, on a une évolution de 6 millions d'années séparée de eux. Alors on est spécial comme une espèce, mais on est des primates. Je crois que dans nos émotions et psychologie, on est des primates. On n'est pas très, très différent d'un chimpanzé ou d'un bonobo.
Dans d'autres. Dans les émotions.
Oui. Pour ça, on a la jalousie, l'amour, la compétition, le lien social. Dans tout ça, on est très primates, je trouve. Oui.
Mais autant chimpanzé que bonobo. On va revenir là-dessus, qu'on est à égale distance des deux, quoi, en fait. Et qui sont pourtant aussi très différents.
Ils sont très différents de l'un de l'autre. Moins différents que nous, on est de eux, mais entre eux, ils sont très différents. Ils ont des sociétés complètement différentes parce que chez les chimpanzés, c'est les mâles qui sont dominants, chez les bonobos, les femelles. Alors, ça change tout, oui.
On va développer sur ces différences-là. Ce qu'on apprend dans votre livre, vous racontez votre parcours en tant que primatologue quand vous avez commencé, et puis la façon dont cette discipline, la primatologie, a été très très marquée, comme plein d'autres disciplines universitaires, par des préjugés misogynes et par un androcentrisme, c'est-à-dire cette façon de mettre le masculin, en fait, toujours au centre. Et de le prendre comme référence. Et vous dites que cet androcentrisme, cette domination masculine, ça a eu des conséquences sur nos croyances et sur nos observations, sur les observations des scientifiques, notamment concernant les babouins. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont encore ces clichés qu'on a sur les mâles qui dominent, les mâles qui sont agressifs, les mâles qui font du mal aux femelles, etc., qui viennent d'observations qui sont en fait très, très marquées par l'androcentrisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus?
Oui, ça a commencé avec une étude qui a 100 ans à la zoo de Londres, où il y avait un scientifique, Charlie Zuckerman, qui était très important en Angleterre à l'époque, qui a mis 100 babouins ensemble dans le zoo. Les babouins ne se connaissaient pas et il avait pris 95 mâles et 5 femelles. Mmh. Il a mis ça ensemble et les mâles ont commencé à se battre entre eux. Ils ont tué, ils se sont tués entre eux, ils ont tué les femelles et après coup, il y avait 2/3 de toutes les populations qui étaient mortes. Lui, il a décrit ça dans un livre, il a dit c'est naturel que les mâles sont très violents, très agressifs, les femelles, ils n'ont rien à dire. Et ça, c'est la société des primates. Et après lui, toute la popularisation par des écrivains masculins était comme ça, c'était naturel que les mâles sont violents et dominants. Et ça a seulement changé, je crois, quand les études étaient faites sur les babouins dans la nature. Et quand les femmes primatologues sont venues, parce qu'au début, moi j'étais étudiant, quand il y avait encore dans la primatologie, la plupart des primatologues étaient mâles. Et tous les grands noms étaient des mecs primatologues. Et dans les années 60 et 70, il y a les femmes qui sont venues. Et eux, ils disaient que dans le groupe de babouins, oui, c'est quand même intéressant parce que c'est surtout les femelles qui ont des liens sociaux, ils restent ensemble, ils vivent ensemble toute leur vie, ils ont tout un système de kinship, ils disent.
Et, donc de parenté entre
oui,
eux.
Oui, entre eux, le mère, la grand-mère, les filles, les sœurs, c'est tout un clic femelle, en fait, qui fait le cœur de la société. Et les mâles, oui, ils sont plus grands, ils sont 2 fois plus grands dans un babouin. Et en fait, la comparaison entre nous, notre espèce et les babouins n'est pas très bien parce que les babouins sont beaucoup plus loin de nous que les grands singes.
Ouais.
Et ils ont beaucoup plus grande différence. Alors, la comparaison est déjà problématique de ce côté-là. Mais les femmes primatologues, ils disaient, il y a d'autres choses à regarder que le mâle dominant. Il y a le lien social, il y a le female choice, le choix de femelle pour le partenaire sexuel, parce que au début, les hommes, ils croyaient que le partenaire sexuel, c'est complètement décidé par la hiérarchie des mâles. C'est tout ce qui compte. Mais les femmes primatologues, ils ont dit non, parce que la plupart des populations sont coopératives. ça veut dire que les femelles, ils ont le choix de faire ou pas faire. Et alors, ils ont commencé à regarder les choix femelles. Et ils n'ont pas changé les méthodes scientifiques. Les gens pensent ça souvent, mais les méthodes scientifiques sont restées pareilles. Mais c'est le sujet de recherche.
Ce à quoi on s'intéresse, oui. Ce qu'on cherche, les questions qu'on se pose, en fait. Ouais. C'est ça qui a beaucoup changé quand les femmes arrivent, quand on ne fait plus l'androcentrisme, en fait.
Ouais.
Est-ce que vous, en tant qu'homme, vous êtes surpris aussi à avoir des biais androcentriques? Et à changer d'avis après, à vous en rendre compte. Et est-ce que ça vous est arrivé dans votre carrière?
Moi, je crois que j'étais toujours intéressé dans toutes les deux genres. Ce n'était pas favorisé pour les mâles. C'est vrai que quand tu regardes un groupe de primates, tu vois d'abord les mâles. Par exemple, chez la gorille, où les mâles sont deux fois plus grands que les femelles, bien sûr, tes yeux sont tirés vers le mâle. Et au début, dans la nature aussi, Jane Goodall, Diane Fossey, Galdica, ce sont des femmes primatologues, au début, ils décrivaient les mâles. Parce que les mâles sont plus approchables, ils fuient moins, ils sont plus grands, plus imposants. Et bien sûr, ils parlent d'abord des mâles. Mais quand on reste des années, comme Jane Goodall l'a fait, quand il reste des années, tu vas voir aussi le femelle et ça devient aussi intéressant que ça qui se passe entre les mâles. Mais c'est vrai qu'au début, quand moi je faisais le travail sur les chimpanzés, au début tu vas d'avoir les mâles parce qu'ils sont spectaculaires et on oublie qu'il y a des femelles peut-être, mais en général c'est plus comme ça. Maintenant il y a plein de recherches sur les deux genres dans la nature et aussi dans le travail comme moi, oui.
Et aussi, les questions posées sont plus les mêmes. On s'intéresse plus autant, enfin, si j'ai bien compris, on s'intéresse plus autant à qui domine, pourquoi, comment ça marche, l'agressivité et tout. Il y a eu aussi plein de recherches justement sur les liens, sur comment ça fonctionne la sociabilité. Vous-même, vous avez fait plein d'études sur le fait que les singes ont des cultures de réconciliation,
par exemple. Oui,
et donc, c'est plus les questions même posées sont plus autant marquées par des questions liées à la virilité, en fait, non?
Oui, et les dominances entre les genres, c'est pas la chose la plus importante dans une société de primates. Peut-être nous, et dans notre société, on trouve ça un sujet extrêmement important. Mais pour la plupart des primates, le plus important, c'est leur position dans la hiérarchie de leur genre. Les mâles sont très préoccupés par leur position entre les mâles. Est-ce qu'on a alpha ou on n'a pas alpha? Les femelles sont très préoccupées par leur position entre les femelles. Est-ce qu'on a alpha ou pas alpha? C'est très important pour eux. Les relations entre les genres, c'est plutôt, la plupart du temps, c'est coopératif. Il y a des violences quelquefois, ou il y a des problèmes quelquefois. Mais la plupart du temps, c'est soit ils s'ignorent parce qu'il y a de vies ségrégées, en fait, dans un sens, ou c'est coopératif. Mais la dominance mâle sur femelle, ou femelle sur mâle, parce que si le bonobo, c'est la femelle qui sont dominants, ce n'est pas le sujet le plus important pour eux.
Vous avez prononcé un mot, là, qui est à l'origine d'énormément de malentendus. Et d'énormément de préjugés sur la domination masculine. Vous avez dit mâle alpha.
Mm-hmm.
Quand on tape sur Google aujourd'hui mâle alpha, on tombe sur des tas de sites et de vidéos et de blogs qui vous expliquent comment être un mec, un vrai, comment coucher avec le plus de femmes possible, comment dominer les autres hommes, tout ça, tout en se basant sur des trucs complètement fumeux de la biologie, etc. Et donc, on a l'idée que dans toutes les sociétés, et chez les animaux et chez les primates aussi, il faut un mec qui domine, et c'est le chef, quoi.
Ouais.
Est-ce que c'est ça, un mâle alpha?
Oui, moi, je suis partiellement responsable.
Bravo, Franck Deval.
Parce que mon livre, La politique du chimpanzé, était le premier de parler beaucoup de mâle alpha. Et c'était adopté par les politiciens à Washington à l'époque. Et depuis ce moment-là, le mot mâle alpha a pris la signification d'être en anglais, on dit un bully.
Un tyran.
Oui, un tyran, un dictateur, c'est ça, le mâle alpha.
Oui, mais avec beaucoup d'admiration. C'est-à-dire, on est censé... Oh, oui. Voilà, les femmes hétéros sont censées désirer des mâles alpha.
Ouais.
Les mecs sont censés vouloir devenir des hommes alpha. Enfin, ouais. Bon...
Oui, la plupart des mâles alpha que j'ai connus chez les chimpanzés, ils sont en fait des leaders responsables. Ils défendent les faibles contre les forts, comme les jeunes contre les adultes ou les femelles contre les mâles. Ils suppriment l'agression des adolescents, mâles adolescents qui sont toujours, comment dire, out of control, qui ne sont pas très bien contrôlés dans leur comportement. Alors, le mâle alpha, c'est en fait quelqu'un qui garde la paix dans le groupe et qui unifie les groupes. Et il n'est pas toujours préféré par les femelles. Au début, quand on faisait des études de primatologie, on croyait que la plupart des bébés, c'était sans doute fait par le mâle alpha parce que toute la population qu'on voit, presque tous, ils sont faits par le mâle alpha. Mais quand on a commencé à tester l'ADN, la paternité, on a trouvé que oui, le mâle alpha, il y a plus de bébés que la plupart des mâles, mais certainement pas 90%, c'est peut-être 50%. Ça veut dire que les femelles, ils cherchent des contacts sexuels que nous, on n'observe pas comme primatologues, la nuit ou derrière des objets ou... ils font des rendez-vous avec des mâles qui ne sont pas mâles alpha. Alors, l'idée que le mâle alpha est le plus attirant, moi, je m'en doute, mais ce n'est peut-être pas vrai. C'est vrai que le mâle alpha peut être très constructif. Et il y a aussi des mâles alpha, malheureusement, que j'ai aussi connus, qui sont des tyrans, sexistes. C'est peut-être 1/3 ou 1/4 qui est comme ça. Ils ne sont pas très aimés par le groupe parce qu'un vrai mâle alpha de leader peut être extrêmement aimé par le groupe et adoré, mais les mâles tyrans, ils n'aiment pas tellement. Et dès qu'il y a un autre mâle qui est assez fort pour devenir l'alpha, à ce moment-là, le groupe va soutenir celui-ci contre les tyrans. Oui.
Mais pourquoi on les appelle alpha alors? Ça veut dire quoi? Ils mangent plus que les autres? Ils
non.
ont plus de...
Alpha, c'est juste le comment dire, the top of the hierarchy. Comment dire ça?
Oui, ils sont au sommet de la hiérarchie, oui. Mais ça leur permet quoi? Du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils ont accès à quoi? Plus de nourriture? On les épouille plus?
Ils ont plus d'accès aux femelles. Ils ont plus
donc de rapports sexuels?
Oui,
okay.
Ils ont plus d'accès aux nourritures. Chez les femelles, il y a toujours aussi un alpha. Pour les femelles, le plus important, c'est la nourriture. Pas forcément le contact sexuel, parce que pour les femelles, puisqu'ils ont des enfants qui soignent et qu'il faut nourrir, la nourriture, c'est le plus important. Et les femelles alpha, ou les femelles de position très haute, ils ont plus accès aux nourritures.
Ils sont plus écoutés aussi, c'est ça?
Dans un groupe de primates, le femelle alpha peut être extrêmement important. Moi, j'ai fait toujours une distinction entre le physical dominance, la dominance physique, et le pouvoir politique. Et par exemple, dans les chimpanzés, moi, j'ai connu une colonie de chimpanzés où le femelle alpha, Mama, était femelle alpha pendant 40 ans. Elle était complètement centrale et très importante dans le groupe. Elle avait beaucoup de pouvoir politique, même si elle ne pouvait pas dominer physiquement.
Mais vite, elle était aveugle à la fin de sa vie même.
À la fin de sa vie, elle ne pouvait presque plus marcher. Elle était presque aveugle. Elle était à 60 ans, elle était encore femelle alpha. Et chez les bonobos, les femelles sont dominantes collectivement. Et alors, une femelle alpha, c'est l'alpha sur tout le monde. Alors, le leadership de femelles n'est pas dur à trouver entre les primates. C'est assez commun. Mais il faut toujours faire une distinction avec les dominances physiques parce que physiquement, les mâles sont plus forts dans la plupart des primates, oui.
Oui, ils sont plus forts, mais à la fois, ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est qu'être plus fort physiquement, ça n'a pas tellement d'importance, en fait.
Oui, c'est intéressant que les gens sont souvent
étonnés par ça, mais...
Les gens sont étonnés par ça, mais imagine que toi, tu visites un magasin ici dans la rue de Paris, et tu veux parler au boss, le manager. Tu ne vas pas marcher vers le plus gros mec dans le magasin en disant « ça doit être le boss » parce que ce n'est C'est peut être l'assistant de quelqu'un. Et le boss peut être un vieux mec ou une vieille dame qui est derrière dans le magasin. Et dans notre société, on ne confond pas la force physique avec la dominance ou le pouvoir politique. On est encore très influencé par la taille des hommes. C'est pour ça que Sarkozy, il était un peu frustré par être si petit, par exemple. Ou Berlusconi, il était frustré par être plus petit que d'autres hommes. Alors, on regarde encore la taille des hommes, mais on a très, très l'habitude que la force physique n'est pas, ça décide pas grand-chose. Et chez les primates, par exemple chez les chimpanzés, le plus petit mâle peut être le dominant. C'est possible. S'il a les bonnes connexions et si la femelle le soutient, il peut devenir le mâle dominant. Et chez eux aussi, la force physique, c'est important, mais ce n'est pas le plus important de tout.
Et puis même quand on dit mâle dominant, mm-hmm. ça ne veut pas dire qu'il fait subir des sévices aux autres, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il les tue, ça ne veut pas dire que...
Non.
Voilà. Mais non, mais parce qu'on a cette idée-là aussi,
il
en fait.
Il ne va pas les tuer, parce que... Si les mâles, ils ont une compétition, c'est surtout pour la reproduction avec les femelles. Et alors, tuer les femelles, ce n'est pas leur but, parce que c'est contre-productif, oui.
Vous savez, il y a une grande féministe décédée maintenant, mais très importante en anthropologie en France, qui est Françoise Héritier, qui avait dit en 2004, dans une conférence, que les humains, c'est la seule espèce où les mâles tuent les femelles.
Ça, on ne peut jamais dire ça. Il y a toujours des animaux où ça arrive, oui.
Mais disons, en tout cas, chez aucun groupe de primates étudié, on tue les femelles autant qu'on les tue chez les humains, par exemple.
C'est vrai que dans notre société, il y a le problème de violence des mâles. Je crois que c'est plus grand que chez nous. Et certainement le viol, parce que le viol est extrêmement rare. Chez le bonobo, c'est complètement absent. Chez le chimpanzé, c'est extrêmement rare. Je crois que c'est plus commun dans notre espèce.
Oui, sur notre espèce, c'est très, très commun.
Oui,
ça, c'est,
oui. Et la violence mâle versus femelle, oui, je pense que c'est plus commun chez nous que chez d'autres espèces, oui.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des Couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la table.
On a aussi cette idée que la loi de la jungle, ce serait la compétition permanente, en fait, entre les animaux, et que les animaux, ils passeraient leur temps à, oui, c'est ça, à être en guerre les uns avec les autres, être en compétition et tout ça. Avec, et ça, je pense que ça vient d'une vieille idée mal comprise de Darwin.
Ouais.
Mais en fait, vous, vous montrez que ce n'est pas du tout le cas. Puis d'ailleurs, il n'y a personne qui affirme vraiment ça dans la communauté scientifique, non ?
Ouais, ouais. C'est... The struggle for life de Darwin, c'est, oui, il y a des gens qui ont interprété ça que toute la nature est basée sur la compétition. C'est souvent utilisé comme une justification pour le système capitaliste.
Oui,
oui. Dans la nature, il y a plein de coopérations. Il y a plein d'animaux qui survivent en coopérant. Et je ne parle même pas des abeilles ou des fourmis ou des termites, mais aussi dans le mammifère, il y a les éléphants, les dauphins, le loup, les primates. Ils sont extrêmement coopératifs. Oui, il y a une compétition entre eux, dans leur groupe. Par exemple, dans les chimpanzés, les mâles sont extrêmement compétitifs l'un avec l'autre, mais ils s'aident aussi entre eux. Ils défendent un territoire ensemble. Et la coopération est très normale dans la nature, oui.
Vous avez montré aussi qu'ils avaient des protocoles de réconciliation assez élaborés même. En fait, ils ne restent pas fâchés très longtemps. Il n'y a pas vraiment de conflit qui va durer très, très longtemps, non ?
Le fait qu'ils se réconcilient après un conflit, par exemple, les chimpanzés, ils s'embrassent et après, ils font l'épouillage. Les bonobos, ils ont des contacts sexuels pour réduire l'agression dans le groupe. Et ils sont très efficaces parce que les bonobos, ils sont beaucoup moins violents que d'autres animaux. Le fait qu'ils ont ces réconciliations-là après un conflit, ça veut dire qu'ils ont des relations sociales qui sont très importantes pour eux, parce qu'autrement, on ne ferait pas ça. C'est parce qu'ils veulent calibrer le degré de conflit dans le groupe. Et il y a toutes sortes de mécanismes aussi. Par exemple, les mâles alpha, ils arrêtent les conflits, entre autres. C'est un bon mâle alpha est très bien à garder la paix dans le groupe. Chez les bonobos, il y a tellement de contacts sexuels qu'il y a très peu de violence. En fait, on n'a aucune observation d'un bonobo qui tue un autre bonobo. On a assez d'observations de ça chez les chimpanzés. Alors, le réguler les conflits et réduire l'agression, c'est toujours un but de toutes les primates parce qu'ils vivent ensemble et ils sont dépendants l'un sur l'autre. Oui.
Et à la fois, vous dites que vous pensez que chez les humains, les personnes qu'on peut appeler des mâles, même si on sait que c'est plus compliqué que juste des mâles et des femelles, mais bon, les adolescents, en gros, pour le dire vite, vous dites, en fait, il faut les élever un peu différemment parce qu'ils sont plus agressifs.
Oui.
Bon, c'est moi, je lis ça.
Ça, c'est peut-être controversial.
Oui, là. C'est controversé, un peu. Mais...
Parce que j'entends souvent « gender neutral upbringing hein, ».
Donc, il faudrait élever tous les enfants de façon neutre.
Oui. Mais pourquoi faire ça si on sait que, d'abord, on sait que les mâles vont être plus violents que les femelles? Parce que ça, c'est partout dans le primate, c'est aussi chez nous. Je ne veux pas dire que c'est bien, mais c'est une observation que la violence est plus masculine que féminine.
L'agressivité, non ? Ce n'est pas la même chose.
La violence, je parle de violence.
La violence, vous parlez
de
violence.
Violence physique, oui.
Et pas d'agressivité.
Agressivité, c'est commun chez le femelle.
Oui, OK.
Et la femme aussi, je dirais. L'agression et le conflit sont aussi normaux. Mais c'est la violence physique, je parle. On sait que le mâle va être différent de femelle. On sait aussi que le mâle va être plus fort que les femelles. Si tu es une mère et tu as deux enfants, un garçon et une fille, tu sais que le garçon, dans le futur, va être plus fort que la fille, physiquement.
Oui, si on prend statistiquement les grands ensembles et tout ça, même si vous rappelez sans cesse dans le livre que tout n'est pas complètement hermétique, qu'il y a toujours...
Statistiquement, on sait qui va être plus fort. En fait, la force masculine chez l'homme, il y a très peu de, comment dire, overlap. Il y a très peu de... Avec la force femelle. Ils sont assez ségrégés, assez séparés. Mais de toute façon, tu sais qu'un garçon va être plus fort que la fille. Tu sais qu'il va être aussi plus une tendance à violence physique que la fille. Alors, il faut l'élever différemment. Parce que même si, quand ils sont petits, peut-être ils sont très pareils, c'est possible, quand ils sont adolescents et plus grands, ils vont être très différents. Et il faut préparer des garçons pour leur position dans la société et espérer, dans l'éducation qu'on donne, qu'on peut faire qu'ils sont plus responsables parce qu'ils seront plus forts, qu'ils sont plus responsables avec leur force et qu'ils utilisent ça dans une façon constructive et pas destructive.
Et comment, par exemple?
Je ne sais pas comment faire, mais il faut leur apprendre respect pour femmes. Apprendre que quand tu es plus fort que quelqu'un d'autre, tu as une certaine responsabilité de comment tu utilises ta force.
Mais en réalité, il me semble que c'est ce que racontent tous les arts martiaux, par exemple. C'est ce qu'on apprend. Le vrai problème, c'est que on n'apprend pas aux filles à se battre aussi. Et en fait, si je repensais à ça en lisant votre livre sur l'agressivité chez les femelles et tout. Bah, en fait, toutes les primates que vous avez vues, elles savent se battre.
Ouais, ouais.
Elles savent. Bon, et il se trouve que chez les humaines, on désapprend ça, on nous interdit même d'apprendre à faire ça. Mais du coup, ça me semble souhaitable que tout le monde apprenne à la fois à se battre et à la fois à canaliser son agressivité, quoi.
Ouais, ouais.
Et ça, après tout, c'est quelque chose qui est au cœur de, oui, encore une fois, des arts martiaux, de plein de sports, quoi, où le but, c'est pas tellement d'écrabouiller l'adversaire, le but, c'est d'apprendre à se défendre ou à se protéger.
Je crois que c'est bien pour les filles et les femmes d'apprendre à se battre, c'est très bien, et ça peut être très utile de faire ça. Mais physiquement, ils vont pas être si forts que le mec. Il y a une étude allemande qui était faite sur le hand grip strength, c'est upper body strength, comment dire.
Oui, la force des muscles dans le torse.
Oui, oui, oui.
Et la capacité de préhension.
Oui, oui. Ouais. Et là, ils ont testé des centaines d'hommes et centaines de femmes d'un certain âge. Et il y avait presque pas, parce que normalement, statistiquement, les hommes et les femmes sont différents, mais il y a beaucoup de, comment dire, des individus communs qui sont presque pareils, des deux genres. Mais là, ils ont trouvé très peu et ils ont testé des femmes qui étaient aussi des femmes athlètes olympiques. Alors, des femmes qui étaient très bien entraînées pour la force. Et ils ont trouvé que même ces femmes-là, ils avaient seulement la force moyenne des hommes qui n'étaient pas entraînés du tout. Alors, les différences de force physique entre hommes et femmes, c'est très important.
Oui, et à la fois, peut-être qu'on surestime aussi ce que c'est la force physique et peut-être que c'est... On s'avance vraiment sur des terrains, je ne sais pas, mais en fait, c'est contrebalancé par la technique, contrebalancé par l'entraînement, c'est contrebalancé par l'adresse, enfin... Jamais on se bat contre quelqu'un juste avec la force physique.
Oui, mais la méthode la plus efficace contre l'avantage homme sur la force physique, c'est la solidarité féminine.
C'est ce que vous montrez chez les bonobos.
Ça, c'est
qu'on les adore, les bonobos, pour ça.
Ça, c'est la méthode la plus efficace. C'est plus efficace que, je pense, entraîner d'être physiquement fort. Parce que les bonobos, ils ont ça. Ils ont une sororité de... Ils s'aident entre eux. Et les femelles ne sont pas individuellement dominantes sur le mâle, parce que les femelles sont plus petites que le mâle, mais collectivement, ils sont dominants. Et on trouve, même chez les chimpanzés, où normalement les mâles sont dominants sur les femelles, on trouve cette solidarité. Par exemple, chez les chimpanzés en captivité, quand on a une colonie, parce que forcément les femelles sont ensemble dans ce cas-là, ils ont une force énorme, ils développent la même sorte de solidarité qu'on trouve chez les bonobos. Dans la nature, chez les chimpanzés, c'est plus dur pour les femelles parce que pour avoir assez à manger, il faut qu'ils soient distribués sur la forêt. Alors, ils sont souvent tout seuls avec leurs enfants et quand ils rencontrent un mâle ou plusieurs mâles. Et ça leur donne moins de défense qu'ils ont quand il y a d'autres femelles qui sont présentes. Mais chez les chimpanzés, on sait que, par exemple, les chimpanzés de l'Est, qui sont plus cohésifs dans leur société, c'est peut-être une différence culturelle.
Oui, vous dites qu'il y a des différences culturelles entre les chimpanzés de l'Ouest et les chimpanzés de l'Est.
Oui, celui-ci de l'Ouest, on connaît très bien, parce que c'est ça qu'on entend toujours, la violence, la territorialité, tout ça. Mais celui-ci de l'Est, ils ont beaucoup moins de violence. Ils ont des sociétés beaucoup plus cohésives. Et les femelles, ils ont beaucoup plus de pouvoir. Alors, ils viennent plus proches, en fait, de Bonobo, où les femelles ont tout le pouvoir. Oui, oui, la solidarité féminine, c'est le, je crois que ça, c'est le, l'arme la plus efficace contre le...
La violence masculine.
Oui, oui.
OK. Ouais. Pardon, on disait la culture des chimpanzés de l'Est et de l'Ouest de la Côte d'Ivoire.
Ouais.
Les bonobos, il y en a énormément en République démocratique du Congo.
Ils sont seulement là. Ça, c'est un très grand pays.
Est-ce que vous, vous en avez observé directement?
J'ai observé dans le sanctuaire. Moi, je n'ai pas travaillé dans la nature. Oui.
Et moi, je vous pose plutôt des questions là maintenant sur les bonobos, parce que je sais, vous dites qu'il ne faut pas choisir son espèce préféré.
Ouais, ouais.
Mais il y a quelque chose d'irrésistiblement séduisant chez les bonobos. Mais ils adorent le sexe. Hein. Ils font de la sexualité tout le temps. Et vous dites que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a moins parlé d'eux pendant des années. On était gênés culturellement, en fait, par ces habitudes qu'ils avaient.
Oui, moi, je suis un Hollandais qui habite en États-Unis. Les Hollandais, ils sont très, comment dire, libérales, c'est ce mot qu'on utilise
Tolérants,
peut-être.
Tolérants, oui.
Dans le domaine sexuel, par exemple, l'amour homosexuel était légal dans mon pays pendant plus que 200 ans. On n'a jamais une illégalité de homosexualité.
Et le rapport au corps aussi est différent?
Quand moi, je suis allé en États-Unis, il fallait que je signe un papier qui dit que je n'étais pas communiste et que je n'étais pas homosexuel. Le communisme, je pouvais comprendre à l'époque, mais pas l'homosexualité. Alors, les Américains, ils étaient très intolérants.
Jusque dans les années 90, hein, il fallait dire ça.
Ouais. Ouais. Maintenant, ils ont bien sûr aussi le mariage pour tous. Mais
pas dans tous les États.
Oui, c'est dans tous les États-Unis.
Dans tous les États maintenant?
Oui, oui, mais tout ça, on sait pas combien de temps ça va durer.
Évidemment.
C'est ça le problème. Mais de toute façon, je viens d'un pays qui est beaucoup plus tolérant que la plupart. Et les Américains et les Anglais, ils sont très timides sur le domaine de sexualité. Ils n'aiment pas parler de ça, ils n'osent pas parler de ça. Et c'est pour ça que le bonobo était problématique pour eux. Ils n'en ont pas trop parlé de bonobo, parce que le bonobo est très sexuel et érotique. Et les femelles, ils ont un clitoris très grand, plus grand que chez l'homme. Et c'est sans doute parce que le plaisir est très important pour eux. Et c'était pas très bien reçu dans le monde scientifique qu'il y avait une espèce qui était dominée par des femelles et qui était si sexuée.
Avec des gros clitoris, qu'elles frottent régulièrement les unes contre les autres.
Oui, oui. Pour les femelles, les contacts sexuels entre eux sont très importants parce qu'ils ont cette solidarité, cette sororité qui est politiquement très important pour eux. Alors, la sexualité et la politique est toujours liée l'un avec l'autre. Oui.
Mais les mâles aussi ont beaucoup de contacts entre les bonobos.
Les mâles sont moins solidaires. Des mâles chimpanzés, ils sont des rivaux et amis à le même temps, mais les mâles bonobos, ils sont très attachés à leur mère. On appelle en anglais « mama's boys ». Ils suivent leur mère et leur mère le protège. Et la position dans la hiérarchie mâle est déterminée par la femelle. Alors, la femelle alpha, si elle a des fils, ils sont très hauts dans la hiérarchie. Oui, c'est différent. Et c'est pas forcément idéal, je trouve, d'avoir des mama's boys, mais c'est ça, oui.
Mais en tout cas, chez les bonobos, ça se passe comme etc.
Oui, oui.
Et vous expliquez aussi que les bonobos, comme les chimpanzés, je crois, mais plus chez les bonobos, en fait, il y a des relations sexuelles fréquentes entre individus du même sexe.
Des contacts sexuels.
Oui.
Oui, bien sûr, oui. Oui. Entre mâles, entre femelles, surtout entre femelles. Et il y a une recherche qui était faite sur l'effet émotionnel, parce qu'on peut mesurer l'oxytocine. L'oxytocine, c'est un hormone qui est lié à le lien social.
À l'attachement.
Oui, l'attachement. Et les femelles, quand ils ont mesuré ça dans la nature, en collectionnant de l'urine, Tu peux, dans l'urine, tu peux mesurer l'oxytocine. Je ne vais pas expliquer comment on collectionne de l'urine dans la nature. Mais
ah oui, ça m'intéresse d'un coup. Comment on fait?
Oui, avec un upside-down umbrella. Avec des, ils utilisent un parapluie qui... oui, c'est vrai. C'est drôle.
Et on se promène comme ça dans la forêt
oui,
avec ça.
Oui, oui,
mais comment? Mais il faut avoir vraiment beaucoup de chance pour que...
Il faut être sous l'animal à le bon moment, oui.
Ah oui.
Oui.
D'accord.
Et donc... oui, on collectionne ça et on a trouvé qu'après le contact sexuel entre femelles, ils sont plus affectés, ils ont plus d'oxytocine que les femelles quand ils ont le contact avec un mâle. Et ça veut dire, on pense, tout ça c'est spéculatif, mais ça veut dire, on pense que les femelles sont plus affectées émotionnellement par des contacts entre eux.
Entre elles
qu'avec des mâles. Ouais.
Et ça, évidemment, il y a plein de gens que ça choque beaucoup, hein, l'idée qu'il y a des... en fait, que ce que nous, on appelle l'homosexualité, c'est absolument fréquent dans d'autres espèces, dans plein d'espèces animales, et que les animaux ne font pas du sexe juste pour se reproduire. En fait, il y a aussi du sexe pour le plaisir, récréatif, et ça perturbe énormément toutes celles et ceux qui aimeraient... qu'il y ait d'un côté les mâles, de l'autre les femelles, que l'hétérosexualité soit naturelle, que ce soit dans la nature, etc. Alors qu'en fait, ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est que tous les cas existent, non ? Ouais. Tout est possible et tout est beaucoup plus fluide, en fait, et tout est beaucoup moins rigide que ce qu'on projette sur les sociétés animales, non ?
Oui, oui. La rigidité, on trouve plus dans la société humaine que dans la nature, je crois. Parce que... chez les bonobos, j'estime que peut-être 3/4 de contacts sexuels, ils n'ont rien à faire avec la reproduction. Parce que c'est dans le même... Le genre, le mâle-mâle, femelle-femelle, ou des femelles qui sont enceintes déjà, des choses comme ça. Et les bonobos, j'appelle bisexuels parce que je ne crois pas qu'ils ont préférence pour l'un contact ou l'autre. C'est très dur à dire qu'ils sont homosexuels ou hétérosexuels. Ils sont bisexuels. Chez beaucoup d'autres primates, la plupart des contacts, c'est hétérosexuel. Mais il y a toujours un 20%, 25% de contacts qui sont homosexuels. Et il y a toujours des individus qui sont plus homosexuels ou hétérosexuels. Et comportement homosexuel est très commun chez beaucoup de primates et beaucoup de mammifères. Ce n'est pas seulement limité aux primates. C'est très commun. L'homosexualité exclusive est très rare. C'est très rare que tu trouves un individu qui est exclusivement homosexuel. Mais il faut dire que c'est notre espèce aussi, ça s'est estimé à moitié d'un pourcent, comment dire, un half percent.
0,5%?
0,5% qui est exclusivement homosexuel. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent homosexuels, qui sont, ça c'est peut-être 4%, 5%, je ne sais pas. Mais l'homosexualité exclusive est assez rare, oui.
Et aussi, pour revenir sur cette question du genre et du sexe et des liens en fait entre les deux, puisqu'en fait maintenant il y a quand même un consensus chez les féministes aussi sur le fait que genre et sexe s'influencent en fait sans arrêt.
Oui.
C'est-à-dire que personne en fait ne prétend que tout est construit, que tout est social et que voilà, en fait on reconnaît qu'on a des corps, que ces corps sont sexués.
On est d'accord, ça c'est sûr.
C'est indéniable. Ouais. Que ces corps sont sexués, mais que le sexe, c'est pas aussi simple que dans les manuels de biologie qu'on étudie à l'école, où on regarde la forme des organes génitaux et on sait si c'est si les gens sont des hommes ou des femmes ou des mâles ou des femelles. En fait, et ça vous le dites aussi que chez les primates également, ça, il y a une tendance quand même à la binarité, mais elle est beaucoup plus fluide que ce qu'on imagine.
Ouais.
Il y a quand même beaucoup de cas qui sont très variables, non ?
Oui, nous, dans la primatologie, on était préoccupés, comme dans la société, je dirais, avec des types typiques, des mâles typiques, des femelles typiques. On a toujours décrit ça. On a ignoré toute la variabilité qui existait. quand moi j'ai écrit le livre, je ne voulais pas écrire forcément sur le gender diversity, la diversité des genres. Ben, je voulais pas, c'était pas forcément mon sujet. Parce que je voulais écrire surtout sur le comparaison entre mâle et femelle. Mais je me réalisais en écrivant que je connaissais tant d'individus qui n'étaient pas typiques. Et j'écris dans mon livre, j'ai décrit une femelle chimpanzé qui s'appelle Donna. Mmh. Et quand j'ai pensé à elle et regardé les photos et regardé tout ce qu'on a écrit sur elle, j'ai demandé à tous mes étudiants et les gens qui connaissaient Donna, qu'est-ce qu'ils me pouvaient dire sur elle. Et en fait, c'est un individu extrêmement intéressant. C'est un individu que j'ai connu quand elle avait 3 ans. Elle était une femelle chimpanzé. Elle voulait déjà faire avec moi des bagarres, qui est un comportement typique pour le jeune mâle. Mais elle voulait faire ça avec moi, mais aussi avec les mâles du groupe, le mâle alpha, tout ça, les chimpanzés. Et les mâles, ils ont accepté ça d'elle. Normalement, ils font ça plutôt avec des jeunes mâles, mais là, ils ont joué avec elle comme ça. Et quand elle est devenue plus vieille, elle a développé des caractéristiques masculines. Elle avait de grosses épaules, de beaucoup de poils, une grosse tête. Elle est venue de loin, on dirait que c'était un mâle. Et elle aimait associer avec des mâles. Elle était toujours avec eux. Elle se comportait un peu comme eux. Et sans doute, moi je ne peux pas demander son identité, mais peut-être son identité était aussi mâle. Ce que j'ai trouvé intéressant de Donna, c'est qu'elle était complètement acceptée par les femelles et par les mâles dans le groupe. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Et ça, je trouve, c'est typique pour tous les individus que je connais. J'ai aussi connu des mâles chimpanzés qui ne se comportaient pas comme des mâles typiques, qui n'étaient pas intéressés, par exemple, d'être alpha, mâle alpha ou la politique des chimpanzés.
Qui étaient sur le côté, qui étaient oui. Des francs-tireurs et qui, en plus, vous dites que des fois, c'était des gros oui. Chimpanzés costauds.
Oui, oui, oui.
Mais vraiment, les trucs de compétition, ça ne les intéressait pas du tout. Quoi.
Oui, oui. Récemment, j'étais dans le zoo de Arnhem et le plus gros mâle que je voyais, et j'ai demandé aux caretakers, comment dire, les keepers of the...
aux gardiens.
Oui, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe avec lui. Il dit oui, il est très impressionnant, mais il n'est pas intéressé du tout dans la politique.
Des chimpanzés.
Il se garde complètement séparé. Et alors, on a toute cette variabilité des individus qui sont différents, qui sont plutôt homosexuels qu'hétérosexuels, tout ça. Toute la LGBTQ variation, on va chez le primate. Mais la grande différence avec notre espèce, c'est que je ne crois pas que ça donne de problèmes. Je n'ai jamais entendu qu'ils ne sont pas acceptés là, dans le groupe. Oui.
Et Donna, qu'est-ce que
Donna, vous pensez que... Donna était sans doute aussi hormonalement un peu différente d'autres femelles parce qu'elle n'était pas intéressée dans la sexualité. Elle n'avait pas de contact sexuel avec de mâles ou de femelles. Et elle n'a jamais eu de bébé non plus, oui.
Oui, d'ailleurs, chez les primates, il y a des femelles qui n'ont pas de bébé.
Ça arrive, oui. Ils ont moins de choix que nous. La pilule a quand même changé toute la discussion du genre. Ils n'ont pas cette choix-là.
Évidemment.
Ouais.
Pour Donna, vous dites que aussi ça fascinait vos collègues, elle fascinait, cet mm-hmm. individu fascinait les collègues queer, les mm-hmm. collègues homosexuels ouais. qui disaient qu'ils la regardaient avec quoi.
Oui, ils sont aussi bien sûr contents d'avoir des individus comme ça chez les primates parce que c'est drôle parce que les gens disent qu'un comportement naturel est bien. Si ce n'est pas naturel, ce n'est pas bien. Mmh. Et les gens qui sont contre l'homosexualité, c'est souvent leur argument, c'est que ce n'est pas naturel. Et moi, je dirais, si on regarde des autres animaux, le comportement est assez naturel. Oui.
Il y a encore plein d'autres choses qui m'ont beaucoup plu dans votre livre. La façon dont les femelles bonobos vivent entre elles. En fait, ont assez peu de contact avec les mâles. Et vous dites qu'en fait, dans plein d'espèces, les mâles et les femelles, il n'y a pas de famille nucléaire, en fait, comme oui. on est ici, que certainement, ça protège oui. aussi les femelles. D'autres réflexions que vous avez, par exemple, sur les jouets des enfants,
ouais.
où vous dites que peut-être c'est de l'arrogance de la part des adultes de croire qu'ils ont tellement d'influence sur ce avec quoi veulent jouer les enfants.
Oui, oui, je pense. Je pense que les gens, ils pensent qu'ils socialisent leurs enfants. Je pense que la plupart des enfants se socialisent eux-mêmes.
Oui, vous dites que l'auto-socialisation, oui, c'est quelque chose de très important, qu'on ne passe pas seulement notre temps à imiter tout ce qu'il y a autour de
nous. Pour les humains, je trouve que dans le magasin, il faut abandonner l'idée d'avoir une section pour les garçons, une section pour les filles. Tu fais toutes les jouets dans tout le magasin et tu laisses les enfants choisir. Et tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et c'est un système plus démocratique des jouets, sans doute.
Oui, et puis d'ailleurs, vous rappelez que la plupart des jouets pour enfants, on ne sait pas grand-chose des jeux.
Ouais.
Pour les enfants, qu'est-ce qui les amuse, pourquoi ni chez les primates ni chez les humains.
Ouais.
Et puis qu'il y a beaucoup de jeux qui impliquent aucun genre, en fait,
ouais,
et qui n'impliquent pas de jouets.
Ouais.
Il y a plein de jeunes, les jeunes individus, les jeunes personnes
ouais,
qui adorent la musique et
ouais,
les collections de trucs et,
ouais, ouais,
et bouger et tout ça.
Oui, faire la musique, aimer les enfants, les animaux. Collectionner des choses, oui, tout ça, ça se fait par les garçons et les filles, oui.
Il y a une chose que vous vouliez ajouter?
Une chose que je trouve importante de dire, c'est que les mâles, chimpanzés, bonobos, ils font pas grand-chose avec les bébés. Ils soignent pas les enfants, c'est les femelles qui font ça. Mais si une mère perd sa vie, il y a des orphelins, les mâles sont capables de le faire. Ils adoptent les orphelins, et ils le mettent sur leur dos, ils leur ventre, ils le gardent, quelquefois pendant des années. Alors les mâles, ils ont cette capacité. Je trouve important à dire parce que les gens disent souvent prendre soin des enfants, c'est naturellement une chose que les femelles doivent faire. C'est vrai que chez d'autres primates, c'est les femelles qui le font. Mais les mâles sont capables de le faire. C'est intéressant de savoir ça.
Oui.
Et dans notre espèce aussi, notre espèce a évolué de familles nucléaires. Sans doute, les mâles sont même plus...
Mais pas partout, pas dans toutes les cultures, en plus. En fait, c'est assez récent, cette histoire de famille nucléaire, en plus, dans l'histoire humaine.
Ah oui, c'est récent.
Oui, oui, c'est très récent.
Comment récent, ça?
Je serais bien incapable de le dire, mais il me semble qu'il y a aussi plein d'endroits dans le monde où on ne vit pas avec cette idée de famille nucléaire, en fait.
Mais si on regarde les hunter-gatherers, comment dire...
Les chasseurs-cueilleurs.
Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas de famille nucléaire?
Non, apparemment pas. Enfin, d'après ce que j'en ai lu, en tout cas. Par famille nucléaire, on entend le plus petit noyau.
Ah.
Donc, deux parents, ou en tout cas une mère,
oui,
et son enfant,
oui,
et pas le groupe. Alors
c'est
qu'en
peut-être
fait...
Pas, c'est pas, peut-être pas forcément deux parents et les enfants, mais le fait que les hommes sont impliqués dans les soins familiales, je crois que ça, c'est universel dans notre espèce. C'est pas forcément mâle, femelle, enfant, monogame, mais c'est peut-être plus flexible que ça. Mais de toute façon, notre espèce, je pense que les mâles, ils ont plus de capacité que chez les chimpanzés et bonobos de prendre soin des enfants. On connaît aussi des recherches neuroscientifiques qui sont maintenant faites sur les hommes qui prennent soin des enfants uniquement. Par exemple, ils ont perdu leur femme, ou ils sont dans un couple homosexuel, ou ils ont choisi d'être le primary caretaker des enfants. Et on sait que leur cerveau change. On a une plasticité là-dedans. Et les cerveaux deviennent plus maternels. Ils ont un amygdala plus grand, beaucoup plus d'oxytocine, récepteurs là-dedans. Et je crois qu'il y a une flexibilité biologique. Les gens oublient parce que les gens pensent que la biologie est rigide. Mais la biologie est extrêmement variable et flexible. Et aussi pour le fait de soigner des enfants, il y a une flexibilité dans notre espèce que, biologiquement, pas seulement culturellement, mais biologiquement, qui existe.
Pour terminer, Franz De Waal, est-ce que vous avez une recommandation d'œuvre d'art à faire pour nos auditrices, pour que nos auditeurs et nos auditrices, qui pour elles, qui vous semble importante sur cette question du genre et des animaux, ou de la masculinité et des animaux? Peut-être est-ce que par exemple un documentaire animalier qui serait bien fait selon vous et qui serait pas obsédé par la guerre, la cruauté et le conflit comme ils le sont exagérément d'habitude.
C'est ça qu'il y a maintenant des groupes de naturalistes qui sont en train de filmer les bonobos, parce que les bonobos étaient ignorés. Il y avait beaucoup de documentaires sur les chimpanzés, parce qu'ils aiment bien l'action violente des chimpanzés quelquefois, mais il y avait très peu sur les bonobos, et ça, c'est en train de venir. Pour les projets d'art, moi, je viens d'une ville, je suis né dans une ville qui s'appelle Den Bosch, en Hollande, d'où vient Hieronymus Bosch. Est-ce que tu connais le peintre Hieronymus Bosch?
Non.
Qui est en espagnol, dit El Bosco, et dans le Prado, il y a une très grande peinture de lui qui s'appelle The Garden of Delights. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français.
Le Jardin des Délices?
Oui, c'est peut-être ça.
Du Bosco. Mm.
C'est très, très grand. C'est très moralisant. Ça vient de, je crois, que 16e siècle. C'est très vieux. Il y a beaucoup d'animaux dedans. Il y a beaucoup de hommes dedans, un comportement d'homme, beaucoup de comportements érotiques aussi. Il y a aussi, à la fin, une punition des gens dans l'enfer. Mais c'est une peinture extrêmement riche et très, très humaine dans le comportement, je trouve.
Je viens de comprendre, de Jérôme Bosch.
Oui, oui, Jérôme. Yeah.
Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch.
Oui, oui.
Et c'est au Prado.
Oui.
Très bien. Je vous remercie beaucoup, Franz De Waal.
OK.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
C'était le 75e épisode des Couilles sur la table. J'espère que cet entretien vous a plu. Moi, je me suis régalée à lire ce livre de Franz De Waal, Différent, le genre vu par un primatologue, qui est paru aux éditions Les Liens qui Libèrent, dans les bureaux desquels cet entretien a été enregistré par Elisa Grenet, qui l'a aussi réalisé. Nous avons fait le prémontage avec Naomi Titi, la productrice de l'émission. Vous pouvez, comme d'habitude, nous écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Partagez cet épisode autour de vous, en parlez sur les réseaux, ça nous fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez. Moi, ça m'a donné envie de continuer à lire sur l'éthologie, et en attendant ce grand documentaire sur les bonobos, qui décidément est en train de devenir mon espèce préférée, ça m'a donné envie d'en revoir d'autres. Ma recommandation perso, ce sont les indémodables documentaires de David Attenborough, produits par la BBC, qui sont, je crois, dispo sur Netflix sous le titre « Notre planète », et qui m'émerveillent toujours. En particulier tous les passages sur les oiseaux de paradis. Bisous, chers camarades primates, et à bientôt. Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des Couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 000 lieues sous ma chair » dans le podcast Le Cœur sur la table.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.